Ben bonjour à tous. Comment ça va bien ce matin? En forme? Il y en a qui ont réveillé un peu trop longtemps, encore fatigués ce matin. Pourtant ça bouge un peu. Alors c'est une nouvelle année, pour beaucoup c'est un nouveau commencement. Je pense à Marilyn et Christina, baptême, une preuve de foi devant tout le monde. Mais bon, c'est une nouvelle année, on pense nouveaux buts, nouveaux désirs, nouvelles perspectives. On se construit un avenir, on continue à se construire un avenir. Mais quel genre d'avenir? Je pense que la plupart des gens seront d'accord avec moi que, quelque part, la quête de l'homme, c'est le bonheur. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui voulait être malheureux. Je sais pas vous. Mais la Bible nous dit qu'il y a plusieurs voies qui mènent à des bonheurs différents. Et je résumerai en deux voies qui mènent vers deux bonheurs différents. Et la première, c'est le bonheur qui vient par la voie de l'obéissance. Et Jésus a dit, en Jean 15, versets 10 et 11, et vous n'avez pas besoin d'y tourner, c'est en matière d'introduction, il a dit, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Ça, c'est la première voie. C'est celle qui nous ouvre la porte vers la joie divine qui vient de Dieu lui-même. Et puis deuxièmement, il y a un bonheur qui est différent, qui vient de la voie de l'orgueil. Ça, c'est celle de la chair. C'est la voie qui dit, ben, moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Moi, je peux suivre ma propre volonté. Moi, je n'ai pas vraiment besoin de craindre la parole de Dieu. Alors pourquoi choisir une voie plutôt que l'autre si les deux offrent un bonheur? Je dirais qu'il y a deux différences qui sont majeures. La première, c'est une différence de perspective. Perspective parce que l'éternité, ben, elle est véritable. Et l'orgueilleux, un jour, va se présenter devant Dieu, les mains vides. Et la deuxième, c'est une question de profondeur. Parce que le bonheur qu'on a avec Dieu, ce n'est pas un bonheur superficiel. C'est un bonheur qui est riche et c'est un bonheur qui est trouvé dans une relation personnelle avec le Dieu vivant, avec la source de toute bénédiction. Alors aujourd'hui, puisqu'on parle d'un nouveau début, d'une nouvelle année, j'aimerais parler de matériaux de construction qui est très dangereux et dont je voudrais vous avertir, surtout Christina et Marilyn. Et c'est un problème qu'on voit dans beaucoup, beaucoup d'églises, dans beaucoup, beaucoup de vies, de gens qui se disaient chrétiens, qui se disent chrétiens. Et c'est un ciment qui endurcit le cœur, c'est le ciment de l'orgueil. C'est celui qui nous fait oublier notre premier amour et qui nous fait rester sur place au lieu de continuer d'écouter la voix du berger et de le suivre. Alors ce matin, le titre de mon message, c'est « Le camp de l'orgueilleux ». Et le passage que nous allons regarder se trouve en Genèse, chapitre 11, versets 1 à 9, qui est connu sous le nom de l'histoire de la tour de Babel. Alors Genèse, chapitre 11, versets 1 à 9. Alors, suivant le déluge, Dieu a parlé à Noé, à sa famille, et il leur a dit « Soyez féconds, remplissez la terre » en Genèse 9, verset 1. C'était sa volonté pour la descendance de Noé, de remplir la terre et de l'assujettir. Et on voit dans ce passage que les gens se sont rebellés. Au lieu de suivre la volonté de Dieu, ils ont choisi de suivre leur propre volonté, et ils ont campé. Dieu, de nos jours, nous a aussi donné sa volonté. Je suis sûr que les baptisés ont médité sur ces versets. Jésus dit, toute autorité m'a été donnée sur la terre, allez, faites des disciples, baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc sa volonté, c'est de faire des disciples, qui se fait en deux parties. Premièrement, par la croissance. C'est ce que Paul écrivait en 1 Thessaloniciens 4, 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est la volonté de Dieu, c'est clair et net. Sa volonté, c'est qu'on croit, qu'on croisse, qu'on grandisse à l'image de Jésus-Christ. Et la deuxième chose, sa volonté, comme on le lit en 1 Timothée 2, versets 3 et 4, « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Alors bien sûr, il faut que les disciples croissent, mais pour grandir, il faut d'abord qu'ils soient sauvés. Et ça, c'est la volonté de Dieu, faire des disciples, en les faisant grandir et en les amenant au salut. Alors la question que je vous pose ce matin, êtes-vous obéissant à la voix de Dieu? Est-ce que votre désir, c'est de suivre Dieu selon sa volonté? Ou est-ce que vous suivez plutôt la voie de l'orgueil? En Romains 15, verset 4, Paul a écrit « Tout ce qui a été écrit d'avance dans l'Ancien Testament l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Alors ce matin, on va regarder une histoire de l'Ancien Testament pour s'instruire et pour y trouver de l'espérance, pour savoir comment accomplir la volonté de Dieu. Et alors ce que j'aimerais qu'on retienne suite à ce message ce matin, c'est très simple. Et c'est ceci, pour accomplir la volonté de Dieu et trouver la joie de Dieu en nos vies, tout ce qu'il faut faire, c'est l'écouter et le suivre, tout simplement. Écouter et suivre. Alors lisons ensemble, Genèse 11, versets 1 à 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. » Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme, des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de la terre. Prions ensemble. Père Céleste, on s'approche de ta parole et on désire être instruit et trouver de l'espoir. Donne-nous des cœurs humbles qui écoutent ta voix et qui la suivent de tout notre cœur, qui ne s'endurcissent pas et qui t'acceptent, qui t'aiment. Au nom de Jésus-Christ, amen. Alors ce qu'on voit dans ce passage, c'est que l'homme, il a chuté pour deux raisons. Premièrement, par orgueil. Et deuxièmement, on voit qu'ils étaient insensés. La première chose, c'est qu'ils étaient orgueilleux. Dieu avait dit, soyez féconds et multipliez-vous. Alors ils se disent, non, nous on va camper, on va s'arrêter, on va trouver une bonne plaine, on va cuire des saucisses, on va cuire des petites briques, et puis on va bâtir une grande ville. Et du coup, ils se mettent directement en opposition à Dieu, en désobéissance. Dieu leur avait donné un commandement, et ils se disent, on a des meilleurs plans pour notre vie que la volonté de Dieu. Alors ils décident de faire autre chose. Alors c'est marrant, quand on regarde en Genèse 10, verset 8, le nom de celui qui a bâti Babylone nous est donné. Et c'est un nom, Nimrod. Alors je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui sait ce que ça veut dire en hébreu, Nimrod. Ça veut dire « rebellons-nous ». Et Babylone, en hébreu, ça veut dire « la porte des dieux ». Alors imagine un pasteur qui ouvre une église, son nom c'est « rebellons-nous ». Et il ouvre son église qui s'appelle « la porte des dieux ». Alors c'était un peu l'image qui était dépeinte à cette époque. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que toute la terre est unie. Toute la terre est unie en rébellion contre Dieu et suivent cet homme et suivent ses plans. Et alors, ils se motivent l'un avec l'autre. Allons, on y va. Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Et alors, ils se mettent à se bâtir une ville pour ne pas être dispersés. Mais c'était quoi la volonté de Dieu? Dispersez-vous. Mais ils se disaient non, nous on a des plans qui sont meilleurs que ceux de Dieu. Leurs yeux étaient fixés sur la terre. Il manquait cette perspective de l'éternité. Et comme le disait Salomon, on a tous en nous le sens de l'éternité dans le cœur. Et quelque part, si on essaye de le remplir avec les promesses de la terre, les promesses de la chair, on va se retrouver les mains vides, parce que ça ne remplit pas. Je ne sais pas vous, mais moi, ce matin, je me suis réveillé, puis Moïse, il ne me manquait pas, en fait. Je ne me suis pas levé en me disant « Ah, purée, qu'est-ce qui me manque, Moïse ? Qu'est-ce qui me manque ? Je souhaiterais tellement qu'il soit là près de moi. » Ben non. Le fait, c'est que nos noms vont être oubliés. Peut-être qu'on va se rappeler quelques actions, quelques souvenirs, mais peu importe la quantité d'efforts qu'on va faire sur cette terre pour que notre nom soit qu'on s'en souvienne, ça va être perdu. Ça va être perdu. Mais pourquoi les gens de Babylone voulaient que les gens se souviennent d'eux ? Pourquoi voulaient-ils se donner un nom ? Ça, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui dit, écoutez, regardez-moi, je suis plus important que les autres gens autour de moi. Vous savez quoi ? Je suis plus ingénieux, je suis plus beau, je suis plus fort, je suis plus cool que les générations précédentes et certainement que les générations à venir. Alors, je vais me faire un nom. Et les gens vont se souvenir de moi. On va se souvenir de notre peuple, le peuple qui a bâti cette tour si grande et si inutile. Et ils se disent, ouais, Dieu, il a fait les cieux. Nous, on va faire une tour qui dépasse les cieux. Et ils s'enorgueillissent. Ils voulaient être connus. Ils voulaient être la fierté. Et alors, Dieu les a arrêtés. Ils avaient campé. Au lieu de suivre la voie du berger qui amène de pâturage en pâturage, ils se sont arrêtés. Ils ont fermé la porte. Ils ont coupé la corde dans un endroit où l'herbe ne pousserait jamais plus. Ils se sont enfermés dans des pâturages qui dessécheraient et qui les laisseraient vides. Au lieu de suivre la voie du berger qui dit « Suis-moi, vis par la foi, peu importe. » Alors ça, c'est la première erreur, le premier péché qu'ils ont commis, l'orgueil. Puis deuxièmement, on voit qu'ils étaient insensés. Alors, Christina, question en 500 points. Dans la vie de Moïse, qui a écrit le livre de Genèse ? Moïse, bonne réponse. Alors, Moïse a écrit le livre de la Genèse. Quelle était son audience ? Le peuple d'Israël qui sort de l'esclavage. Alors, imaginez. Tournez avec moi en Exode, chapitre 1, verset 14. Il parle des Égyptiens et de ce qu'ils faisaient endurer au peuple d'Israël. Exode, chapitre 1, verset 14. Deuxième livre de la Bible. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux, en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Alors, l'audience à laquelle Moïse s'adresse quand il écrit le livre d'Exode, le livre de la Genèse, c'était le peuple d'Israël qui était sorti de l'esclavage. Et en Égypte, ils faisaient des briques. Et c'était du dur labeur, c'était l'esclavage, c'était la cruauté. Et puis, vous lisez, imaginez, ils sont en train de lire cette histoire, des gens qui se rassemblent. Hey, alors, on va faire des briques sous le chaud soleil de la Mésopotamie qui brûle toute l'année. Mais vous savez quoi ? On va en faire, mais on va faire toute notre vie. Et on va bâtir cette tour tellement grande et tellement inutile. Mais non, mais c'est vrai. Puis les gens, ils vont se souvenir de nous comme ce grand peuple qui a bâti une tour inutile. Alors, vous doutez qu'il n'y a pas beaucoup de pharaons qui ont passé leurs vacances à faire des briques avec Israël. Mais la raison, c'est parce que c'était un dur labeur. Et ces gens se disent, c'est ce qu'on va faire toute notre vie. On va bâtir une tour qui n'en finit pas. Il y a les archéologistes qui ont découvert dans une pyramide en Égypte, c'est écrit concernant un pharaon. Ton nom vivra parmi le peuple en même temps que ton nom entrera parmi ceux des dieux. Alors les Égyptiens aussi, ils avaient essayé de se faire un nom. Mais par contre, Dieu, il les a un peu ridiculisés. Alors vous imaginez Israël qui, pendant des millénaires, ils se souviennent de l'Égypte comme cette puissance qui a été abaissée et humiliée. Et tous leurs dieux, ils ont été abaissés et mis au ridicule devant la puissance du Dieu vivant. Ces Égyptiens qui voulaient se faire un nom, Dieu les a humiliés. Vous vous souvenez de l'histoire de David ? Et il avait épousé une femme du nom d'Abigaël qui avait un mari. C'était quoi le nom de son mari ? Nabal. Ça veut dire quoi ça en hébreu ? Ça veut dire stupide ou insensé. Et en fait, Moïse, quand il écrit ce texte en hébreu, il met toutes les lettres du mot stupide, Nabal, Babel, Balal, ça veut dire de confondre. Et alors, quand on lit le texte en hébreu, c'est un peu l'histoire folle des gens stupides de l'insensé de Babylone. Et alors, Moïse, un peu, il se moque d'eux. Mais c'est vrai que le péché, quelque part, il nous rend insensés. Et le péché, il nous rend aveugles. Et surtout quand on pense à la perspective de l'éternité. C'est de la folie de ne pas suivre la volonté de Dieu. Alors, premièrement, il y a l'orgueil. Deuxièmement, il y a la folie. Et puis, troisièmement, qu'est-ce qu'on voit ? On voit le jugement de Dieu. Dieu, il entre dans la photo. Il entre dans l'image. Et là, c'est inévitable. Alors, l'homme, il voulait faire sa volonté, mais Dieu, il avait des plans. Alors, Dieu, il entre. Et j'imagine Dieu regardant du haut des cieux. « Ah, ces hommes, ils sont tellement intelligents. Il n'y en a aucun qui fait ma volonté. Qu'est-ce que je vais faire ?» Alors, il descend. Et puis, il confond les largages. Et puis, tout d'un coup, « Vayomer Adonai, en Arad. » Les gens ils parlent dans des langues différentes, personne qui comprend. Et puis c'est fini. Comme ça, c'est fini. L'œuvre des hommes est mise au néant. Il n'y a plus rien qui se passe. Mais quelque part, le jugement de Dieu, c'est une bénédiction. Et c'est ce qu'on voit depuis le début. Vous imaginez si des hommes comme Hitler n'étaient jamais morts ? C'est ce qui s'est passé dans le jardin. Dieu a vu que l'homme était pécheur, son cœur était dur. Et alors, il a permis à l'homme de mourir pour que la méchanceté de l'homme ne se développe pas autant. Et puis, suite au déluge, il juge encore. Et puis, il limite la vie de l'homme à 120 ans. Et puis là, encore une fois, il confond les langages parce que la terre était unie. Mais dans quel but ? Dans le but de se rebeller contre Dieu. Et alors, Dieu juge par amour. Et la volonté de Dieu, elle va être accomplie, peu importe ce que les hommes font, peu importe leur volonté, peu importe leurs ambitions. Mais à la fin, il va y avoir deux camps. Il va y avoir ceux qui sont avec Dieu et ceux qui sont mis dehors. Comme Jésus disait en Jean 15, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. » Puis on ramasse les serments, on les jette au feu et ils brûlent. Bon, on a parlé de la génération de Babylone, mais qu'est-ce qu'il en advient de nous ? Comment vivons-nous la volonté de Dieu ? Laissez-moi vous poser une question. Où sont, qui sont vos disciples ? Qui sont vos disciples ? Si la volonté de Dieu, c'est aller faire des disciples, qui sont vos disciples ? Alors, des excuses, il y en a beaucoup. Moi, je suis assez occupé, je n'ai pas vraiment le temps de m'investir dans l'œuvre de Dieu. Les circonstances de ma vie ne me permettent pas, trop de soucis. Mais Jésus n'a pas dit, allez faire des disciples. Sauf ceux qui ont des excuses. Ceux-là, ils n'ont pas besoin. Non, il a dit, allez-y, la moisson est grande, la moisson est abondante. Quelles sont nos priorités ? Le confort ? Le divertissement ? Ou la volonté de Dieu. Jésus disait, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il a aussi dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Lorsque Jésus nous demande de faire des disciples, de faire sa volonté, c'est pour que notre joie soit parfaite. Ce n'est pas pour nous mettre sur une loi qui oppresse, sous des obligations à faire. Au contraire, c'est pour nous rapprocher de lui. C'est pour nous rapprocher de sa volonté, rapprocher de son cœur. Et quand on se rapproche du cœur de Dieu, les passions de Dieu deviennent nos passions, les fardeaux de Dieu deviennent nos fardeaux. Et sa volonté devient notre désir, notre plus grand désir. Alors mon avertissement aujourd'hui pour Christina, Marilyn, toute l'Église, c'est de ne pas tomber dans la voie glissante de l'orgueil. Très facile. Comment ça commence ? On est un peu occupé, alors au lieu de passer du temps dans la prière le matin, on passe un peu moins de temps. Mais on s'en sort quand même, on y arrive, on continue à servir un peu dans l'église. Puis petit à petit, on prie un peu moins. Tu le pries le matin, on prie un peu pendant la journée, un peu par-ci, un peu par-là. Puis petit à petit, on perd notre premier amour. Et le ciment de l'orgueil sèche notre cœur et l'endurcit. Et puis moins on prie, moins on se repent. Parce que la repentance, ça fait partie de la prière. Et sans repentance, il n'y a pas de croissance. Et c'est comme ça que ça commence. on arrête de grandir. Et au lieu de suivre la voie du berger, on se place là où on est confortable, dans la facilité. Et au lieu d'aller d'un pâturage à un autre, vivant par la foi, ben, on se dit, ben là, dans ce pâturage-là où j'étais avant, c'était pas trop mal, je vais y rester. Et on se met là où on est confortable, on est habitué. Au lieu de vivre par la foi, de prendre les risques, de continuer. Et on campe. Et on danse la même danse, la même vieille danse, jour après jour. Et puis, on handicape nos églises. Et puis, on se dit, bon, ben, j'ai pas trop le temps d'évangéliser, j'ai pas trop le temps de faire des disciples, mais je vais témoigner par ma vie exemplaire. Mais comme notre vie n'est pas très profonde, on se rapproche pas trop des gens, on reste superficiel. Et puis, on se dit, ben, si au moins les gens pensent que je suis une bonne personne, bah alors j'aurais accompli mon but de chrétien. Et puis on devient consumé par un désir de protéger une réputation, une image. Et c'est ce qui se passe. On essaie de se faire un nom au lieu de glorifier le Seigneur. Et on se bâtit une tour de Babel inutile. Et tellement de croyants tombent dans cette voie de l'orgueil, se disant, bah, la volonté de Dieu, bah, je suis trop occupé pour la faire. Et puis la vie chrétienne devient superficielle et la joie de Dieu devient passagère. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'était les mots de Jésus, mais ils deviennent étrangers à celui qui vit par la voie de l'orgueil. Pourquoi ? Parce que quand on arrête d'être ouvert, quand on arrête de se repentir, ce qui se passe, c'est que on s'aperçoit comme une bonne personne en fin de compte. On se dit, ben, finalement, moi, j'ai quand même trouvé ma voie, je suis confortable, je peux continuer là où je suis. Et nos églises deviennent remplies de gens qui, au lieu de se battre la poitrine, disant « Dieu, aie pitié de moi, un pécheur », on est remplis de bonnes personnes. Et ça, c'est plus l'évangile, parce que l'évangile, c'est pour des pécheurs. Et après, on s'étonne qu'on n'arrive pas à amener des gens au Seigneur. Mais ça, c'est la voie de l'orgueil qui dit « bah, la volonté de Dieu, bah, c'est peut-être une priorité, mais moi, j'ai des exceptions, des excuses. » Mais Dieu nous dit que nous avons besoin d'un sauveur. Et ça, c'est tous les jours. Et ça, c'est l'évangile. Ce n'est pas seulement une fois qu'on a fait une prière de repentance. La vie chrétienne continue au pied de la croix, jour après jour, avec un cœur brisé qui dit « Dieu, ta volonté, pas la mienne. Aie pitié de moi, un pécheur. » Les gens meurent sans Christ jour après jour, tellement qu'ils choisissent la voie de l'orgueil sans connaître Dieu. Et tellement souvent, nous les chrétiens, nous les suivons. Tellement de fois, nous nous enorgueillissons aussi, endurcissons notre cœur par rapport à la volonté de Dieu. Et tous ces gens qui pensent aller au ciel, mais avec quelle force ? Il y a seulement Dieu qui ressuscite les morts. Et nous, souvent, on les regarde dans les yeux, on sait qu'ils vont en enfer, et puis on rentre chez nous et on regarde la télé. 1 Pierre 2, versets 9 et 10. Je vous invite à y tourner. Pourquoi avons-nous été sauvés ? Pourquoi avons-nous été sauvés ? 1 Pierre 2, versets 9 et 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Dieu nous a sauvés pour annoncer, pour proclamer les vertus de celui qui nous a appelé des ténèbres à la lumière. Est-ce là notre fardeau ? Est-ce là où nous trouvons notre joie d'annoncer jour après jour les merveilles que Dieu accomplit dans nos vies ? Nous avons un sauveur. Et quel sauveur ? L'aimons-nous vraiment ? Quelle est la dernière fois que vous avez dit à Dieu que vous l'aimiez ? Prenons-nous le temps d'écouter sa voix, de se remettre en question, de lui laisser nous sonder le cœur. Ou sommes-nous satisfaits dans de vieux pâturages où l'herbe a été brouté depuis longtemps et est desséché. Et souvent, on pense que le jugement de Dieu est seulement pour les inconvertis. Mais combien de trésors céleste, nous ratons à cause de notre paresse et de notre égoïsme. Alors que Dieu nous sauve de notre orgueil, qu'il nous apprenne à nous humilier devant lui et d'être remplis d'amour pour son royaume et pas pour notre propre royaume, et qu'il soit premier dans nos vies. Alors comme j'avais lu au départ, Paul avait écrit « Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Alors l'histoire de la tour de Babel ne s'arrête pas là. Elle continue au chapitre 12 de Genèse. Le reste du chapitre 11, il n'y a pas grand-chose qui se passe. On voit des générations, des gens qui ont des enfants qui meurent, et rien ne se passe. Et puis au chapitre 12, commence l'histoire d'Abraham. Alors Abraham venait de la Chaldée, du même pays que Babylone, que la tour de Babel. Et en fait, on lit une histoire d'un homme qui était tellement orgueilleux qu'il avait appelé son fils « Père exalté ». Père exalté. Et c'était qui celui-là ? Abraham, c'était son nom. Et on voit Dieu. Qu'est-ce qu'il fait ? Il change le nom d'Abraham. Et au lieu de l'appeler Abraham, il l'appelle Abraham. Au lieu de l'appeler Père exalté, il l'appelle Père d'une multitude. Alors vous voyez un peu le changement de perspective. Père exalté, regardez-moi, attention, je suis le Père exalté. Père d'une multitude, la bénédiction qui se répand sur la surface de la terre. Dieu, depuis le début, sa volonté, c'était que les nations soient bénies. Il voulait que des peuples puissent le connaître parce que c'était le plus grand bien qui pouvait leur passer. Mais les hommes se sont enorgueillis tellement de fois dans le jardin d'Éden, avec Noé, du temps de Babylone, encore et encore. Et c'est l'histoire qu'on voit du début jusqu'à la fin de la Bible. Des cœurs qui s'enorgueillissent. Et qu'est-ce qu'on voit en Genèse 12, versets 1 à 4 ? Lisons ensemble. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. J'aime beaucoup ce dernier verset. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Abraham, complètement différent de toutes les générations avant lui, il a obéi au Seigneur. Et quelles furent les conséquences de son obéissance ? Un peuple qui adore Dieu. Quelle bénédiction ! Suivent ceux qui suivent le Seigneur. Quand on est dans la volonté de Dieu, Dieu nous utilise pour être une bénédiction pour les autres. Au lieu de se concentrer à bâtir notre propre empire, notre propre royaume, à bâtir une réputation pour être respecté, pour être honoré, que nos noms soient oubliés devant celui glorieux de Jésus-Christ, que nos vies soient perdues dans celles de Jésus-Christ. Dieu a utilisé Abraham avec tant de puissance. Il y a deux genres de personnes sur cette terre. Il y a les Abraham et il y a les Abraham. Il y a ceux qui s'humilient devant le Seigneur et qui disent « Non, pas ma volonté. Toi, je partirai, je ferai tout ce que tu voudras, j'écouterai ta voix. » Je prendrai des risques, je vivrai par la foi. Et il y a les Abraham qui se disent je suis pas mal occupé, il faut que je me conserve, il faut que je fasse attention à ce que les gens pensent de moi, il faut que je bâtisse ma réputation, que les gens me respectent. Je vous invite à tourner en Ésaïe 66, versets 1 et 2. Et nous allons finir avec ces versets. Dernier chapitre du livre d'Ésaïe. Ésaïe 66, versets 1 et 2. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure ? Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Le mot hébreu pour esprit abattu est le mot qui signifie estropié. Vous vous rendez compte le niveau de dépendance que Dieu demande de ses enfants? Des gens estropiés. Des gens qui disent non, pas par ma force, pas par ma volonté, mais toi Seigneur, je t'obéirai, je te suivrai. Remplis-moi ta force, remplis-moi toi. Donne-moi d'être humble devant toi, de craindre ta parole. Christina et Marilyn, c'est ma parole pour vous et pour toute notre assemblée, que jamais nous cessions d'être dépendants du Seigneur, de lui obéir, de suivre ses voies, de craindre sa parole et de nous humilier devant nous. De jamais cesser de le suivre de pâturage en pâturage pour brouter cette herbe verte et abondante qui vient avec la joie du Seigneur, plutôt que camper avec les orgueilleux. Prions ensemble. Père Céleste, quelle joie de te connaître, quelle joie de savoir que tes plans pour nos vies sont merveilleux. Et tu nous as aimés avant la fondation du monde. Père Céleste, que nos cœurs ne s'endurcissent pas devant toi. Aide-nous à t'aimer. Aide-nous à chercher à te connaître, à chercher le royaume de Dieu premièrement, à accomplir ta volonté. Aide-nous à te suivre, à suivre ta voie, avec toute notre aide, tout notre cœur, toute notre force. Au nom de Jésus. Amen.